Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans l'Happy Hour. At the happy hour.
At the happy hour. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est l'heure de l'Happy Hour, l'émission où l'on peut boire un peu avec modération. Bon, ça n'a pas changé, comme toujours, on est à l'eau. Aujourd'hui, on va parler bien-être cosmétique et pour passer un beau moment, une équipe de choc. Mélissa, salut.
Bonjour.
Alors, au programme aujourd'hui,
on va parler du nouveau variant détecté il y a quelques jours.
Chouette, super. Et Eric, bonjour.
Et bonjour les gens.
Tu vas nous parler de quoi ?
Moi, je vais vous parler d'une actu, d'histoire, d'un lieu, de plein de choses.
Magnifique. Alors avec nous, pour passer un beau moment, Camille Gercy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la créatrice de la marque de cosmétiques Loupalis.
C'est ça.
Pour commencer, Loupalis, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, ça vient du latin. Donc, lupa, en fait, ça veut dire louve en latin. Et lis, c'est la contraction de localis, donc qui veut dire local en latin. Donc, en gros, c'est la louve locale.
La louve locale.
Voilà.
Et est-ce que tu peux d'abord nous expliquer, parce que j'ai dit vous, mais on va passer à tu,
ouais,
maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours, tes études avant de créer ta marque?
Ouais, alors rien à voir avec la cosmétique. c'était surtout, voilà, j'ai fait de l'art, j'ai fait une licence de langue, j'ai fait de la danse. Enfin, voilà, je me cherchais et puis un jour, voilà, avec une amie, on discutait. J'ai eu cette idée de pourquoi pas lancer ma marque. Alors, je faisais déjà mes cosmétiques pour moi-même, voilà, fait maison, quoi, pour usage personnel. Et après, je suis assez indépendante, j'aime travailler seule, par moi-même, de chez moi. Et donc, bah, monter une entreprise, c'était... ça coulait bien, quoi.
Ça coulait de source.
Ouais, ça coulait de source et c'est comme ça que bah, ça a démarré de là, quoi.
D'accord. Et est-ce que, avant du coup de rentrer dans l'entreprise et tous les produits que tu proposes, tu peux nous dire un peu ce que tu faisais avant comme produit déjà pour toi ?
Alors, bah, je faisais du coup surtout bah, déodorant, dentifrice. Après, j'utilisais des huiles végétales pour remplacer les crèmes de jour ou, voilà, ou de nuit. Et voilà, c'était assez les produits, voilà, classiques, basiques. J'utilise pas des milliards de produits, donc voilà, c'était la base des produits. Bon, après, je faisais aussi tout ce qui était produits ménagers et tout ça, mais rien à voir du coup. Mais voilà, c'est pour ça que je suis partie en fait sur dentifrice et déodorant, parce que c'était les produits que j'utilisais de base, que je faisais déjà pour moi. Alors, je me suis dit, bah, allez, et puis. Et puis, c'est des produits, voilà, classiques du quotidien que tout le monde utilise. Et voilà, j'avais envie d'un truc, voilà, non genré.
Mixte.
Ouais, voilà, mixte, que tout le monde peut utiliser. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'huile essentielle aussi, donc ça reste...
Tout le monde peut les utiliser, parce qu'on sait que parfois, les huiles essentielles,
Femmes
enceintes, les personnes âgées...
Alors là, c'est le dentifrice en poudre qui n'est pas autorisé aux enfants de moins de 6 ans.
D'accord.
C'est plus, on va dire, pour le côté poudre. Voilà, ah. C'est un peu compliqué, quoi.
Okay. Utiliser.
Il peut peut-être s'étouffer.
Oula.
Mais non, voilà, c'est ça. Après, sinon, voilà, les plantes bah, sont dans les doses qu'il faut. Et voilà, j'essaie de faire au plus simple et pour que, voilà, tout le monde puisse s'en servir.
Ok. Alors, est-ce que, du coup, tu peux nous présenter ? Tu es venue avec 3 produits, donc des produits dans des pots.
Donc, les 3.
Voilà, donc le déodorant, il y a 2 dentifrices, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, 2 dentifrices. Donc, ça, c'est le déodorant. Donc, qui est voilà, couleur claire, comme ça, au moins, ça tâche pas.
Ouais, c'est plus.
Et, et couleur, enfin, odeur très légèrement fleurie, je dirais, un peu sucrée. C'est la racine de guimauve, en fait, qui
D'accord.
donne cette odeur. C'est dur à décrire. Et après, voilà, les 2 dentifrices, donc un en poudre, qui est bah, la poudre, et un en pâte, donc très vert, parce qu'il y a de la menthe. Mm. Donc après, bah, la menthe, c'est vert, et ça rend vert, on n'a pas. Et voilà. Et
alors,
puis après, les spatules, voilà, les spatules qui sont pour prélever le produit. Donc ça, c'est le toxicologue qui m'a conseillé presque obligé. Enfin, voilà, on va dire, si j'avais pas les spatules, il aurait fallu rajouter un conservateur dans les produits.
D'accord.
Pour tout ce qui est bactéries.
Ok. Voilà. Mais justement, ces produits, comme ils sont sans conservateur, qu'est-ce que tu mets dedans pour quand même que ça tienne, quoi,
enfin, bah, en fait, tout ce qui est conservateur, ça conserve tout ce qui est eau. Donc ça préserve des bactéries et tout ça, donc tout ce qui est eau, gel, hydrolat, voilà. Et après, là, vu que moi, je ne mets pas d'eau, donc c'est que des huiles végétales, de la cire d'abeille, que des corps gras, je mets de la vitamine E. Et d'accord. La vitamine E, c'est antioxydant, parce que voilà, une huile, en fait, ça ne crème pas les bactéries, mais ça s'oxyde. Et après, en soi, une huile qui est oxydée, ce n'est pas du tout dangereux, c'est juste que ça sent un peu moins bon. Mais en soi, on peut toujours l'utiliser. Qu'une eau qui a viré, c'est vaut mieux pas s'en servir.
Eric. Et donc là, c'est un apprentissage toute seule. Enfin, c'est de l'auto-formation ou il y a vraiment eu une formation ?
J'ai fait une formation d'une semaine dans le Pays Basque, donc sur tout ce qui est cosmétique naturelle et puis la réglementation, parce que elle est lourde, la réglementation cosmétique. Donc ça a été ça. Après, j'ai commencé à chercher tous mes fournisseurs parce que je voulais vraiment des fournisseurs locaux, qui venaient de la région. Du coup, j'ai cherché des fournisseurs qui étaient prêts à me fournir et puis capables de me fournir. Et après, je me suis basée, eux, sur les ingrédients qu'ils proposaient pour moi, formuler mes formules. Et après, ça a été des tests, plein de tests, pour trouver la bonne texture, la bonne odeur, l'efficacité, le bon goût.
Tu as des testeurs avec toi ou tu testes ?
J'ai eu des testeurs avec moi. La famille et les amis. Je n'ai pas étalé au monde entier, mais... Mais voilà, j'ai fait tester mon entourage pour avoir des retours. Et avec leurs retours, après, j'ai pu modifier les formules en les écoutant, quoi. Ce qui n'allait pas, ce qui allait. Et après, j'ai fait une formation supplémentaire. C'était 6 jours, pareil, mais à distance. Donc, c'était étalé sur tout ce qui est bonne pratique de fabrication, qu'on appelle. C'est toute l'hygiène du laboratoire, les papiers... La paperasse, on adore.
Oui, c'est comment passer d'une création à très petite échelle à créer pour beaucoup plus de produits.
Après, c'est produire beaucoup de produits, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Suffit, on fait des quantités plus grosses. Après, c'est conditionné, on conditionne plus de peau. Donc en soi, même en étant seul, c'est possible de produire pas mal. Bon, je n'ai pas encore testé, donc je n'ai pas les chiffres exacts. mais voilà, c'est quand même possible de produire pas mal. Et après, si un jour ça vient à se développer, il faut penser à embaucher. Et puis déménager le labo, avoir un endroit plus grand.
Est-ce que du coup, avant de te lancer dans l'aventure des cosmétiques, même si tu le pratiquais, tu as peut-être fait une enquête, un questionnaire auprès des gens pour savoir qu'est-ce qui leur plaisait dans les cosmétiques peut-être ?
Oui, j'avais commencé par un questionnaire que j'avais partagé sur les réseaux sociaux pour voir déjà si mon idée, ça pouvait plaire. Les gens, si ça plaisait, qu'est-ce qu'ils recherchaient, qu'est-ce qu'ils avaient envie. Et c'est vrai que ça a collé avec... avec moi ce que je voulais. Bon, déjà ça m'a confirmé que ça pouvait être utile et recherché, quoi. C'était pas et après je suis partie de ce qu'ils recherchaient, ce qu'ils aimaient, l'important du naturel, que le côté artisanal, local, tout ça aussi, que c'était recherché. Donc après c'est des valeurs qui me conviennent et qui me correspondent, donc il y a pas, ça collait très bien, ça m'a rassurée.
On le voit sur les spatules, du coup, que tu en as ramené 3. Il y a une louve, un loup.
C'est mon logo.
C'est ton logo. Est-ce que tu peux nous parler de ce logo un peu ?
Logo, oui. Alors ça, pareil, pour le questionnaire. Les questionnaires, on peut laisser des petits commentaires à la fin, si on veut. Et c'est une dame que je ne connaissais pas du tout à l'époque et qui rentrait de son tour du monde avec son compagnon... qui m'a laissé un message comme quoi elle aimait beaucoup, elle travaillait pas du tout là-dedans, elle n'était pas graphiste de métier, mais elle adorait faire ça et que elle serait très contente de me faire mon logo si j'étais d'accord. J'ai dit oui, carrément. J'ai sauté sur l'occasion, surtout qu'on sait ce que ça coûte de se faire un logo, quoi. Et du coup elle m'a fait ce super logo qui est magnifique. et voilà.
Justement, un lien particulier avec la louve ?
Pas de lien particulier, on va dire, personnellement, mais après, c'est... Enfin, pas le loup en particulier, quoi, du moins, mais plus ce côté animal, de vraiment faire le lien que... j'adore les animaux, c'est vraiment une passion, et faire le lien avec le fait que mes animaux, ça nous fait... Ils protègent notre santé, parce que, il n'y a pas de produits chimiques, tout ça, mais ils font du bien aux animaux et à l'environnement, Oui, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques, mais aussi parce que c'est des producteurs locaux, donc il n'y a pas tout le transport de matières premières, c'est des contenants verts. Mmh. Donc voilà, faire le lien avec les animaux.
On va revenir vers toi dans quelques instants. On va passer à la chronique de Mélissa. Alors, de quoi tu vas nous parler? Du variant?
Oui, alors, le variant Omicron, il a été détecté il y a quelques jours en Afrique du Sud. Et depuis, cette nouvelle mutation du Covid-19 inquiète énormément les autorités à l'échelle internationale. Des premiers cas ont été détectés ces derniers jours en Europe. En France, 8 cas probables de cette souche ont été recensés dimanche. Et un cas a été officiellement détecté ce matin sur l'île de la Réunion. Ce nouveau variant apparaît alors que le pays est touché par une cinquième vague. Donc l'Organisation mondiale de la santé estime que ce variant présente un risque très élevé de diffusion au sein de la population mondiale. Or, pour l'instant, on ne connaît pas toutes les caractéristiques de l'Omicron. Les premières données indiquent que ce variant présente 32 mutations, beaucoup plus donc que le variant Delta, qui représente aujourd'hui la quasi-totalité des contaminations en France. Détecté pour la première fois fin 2020, le Delta est deux fois plus transmissible que le virus d'origine. Quant à l'Omicron, il faudra plusieurs semaines pour connaître réellement son niveau de transmissibilité et de virulence, mais aussi sa résistance au vaccin. Selon la présidente de l'Association médicale sud-africaine, qui a soigné une trentaine de patients touchés par ce variant, les symptômes seraient différents et un peu plus légers. Mais les données présentées par l'OMS laissent à penser que l'Omicron présente un risque accru de réinfection. Pour l'heure, c'est donc la prudence qui prime. Une course contre la montre, s'est lancée pour contrôler la propagation de l'Omicron. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a affirmé que cette nouvelle souche du virus était placée sous très haute surveillance. Face à ce variant, la France, comme certains pays de l'Europe, a décidé de fermer ses frontières à 7 pays d'Afrique australe, qui sont donc l'Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l'Eswatini. Fermeture qui, pour l'instant, devrait s'appliquer jusqu'au 1er décembre à minuit. Outre le vent de panique autour de l'éventuelle dangerosité de ce variant, son appellation a beaucoup fait parler. La souche a été repérée d'abord en Afrique du Sud, mais depuis juin, les variants ne sont plus nommés en fonction du pays dans lequel ils sont découverts. L'OMS a décidé de leur attribuer des lettres de l'alphabet grec dans l'ordre de leur apparition. Une appellation plus claire et surtout plus simple à retenir que les noms scientifiques. Ce nouveau variant a en effet d'abord été nommé B11529 ou B.1.1529.
C'est compliqué, quoi.
Voilà, c'est pas facile. Donc nommé comme ça avant de se voir attribuer la 15e lettre de l'alphabet grec. Omicron désigne en grec ancien le O bref et fermé, en espérant donc que la durée de vie de ce variant soit elle aussi brève. Alors pour l'anecdote, l'OMS a fait le choix de sauter deux lettres, nu et xi. L'organisation a en effet estimé que la prononciation de nu ressemblait trop au mot new en anglais. Exi n'a pas été utilisé parce que c'est un nom de famille courant dans certains pays.
Ah oui.
Espérons donc que les mutations du Covid cessent, parce qu'à ce rythme-là, l'OMS aura vite épuisé les 24 lettres de l'alphabet grec, la dernière étant l'oméga, qui désigne un O long.
Merci. Merci Mélissa. Camille, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que tu viens pas de la Lozère d'abord,
non,
et tu es installée maintenant à Recoule de Fumas. J'espère que je prononce bien le nom du village.
Okay.
Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce village?
Pur hasard, c'est là où on a pu trouver la maison et qui a accepté le crédit. Voilà. On cherchait en fait aux alentours de Mende un rayon. Et on en a visité bien 15 ou 20, je pense, de maisons. Et voilà, on a eu pas mal de refus ou de gens qui payaient comptant. Voilà. Et puis celle-là s'est passée. Donc on a dit, c'est bon. Mais au final, c'est la meilleure. Donc, ça.
Et du coup, tu travailles de chez toi. Il y a un labo tu es en train d'aménager un labo, c'est ça?
C'est ça, ouais, je suis en train d'aménager le labo. C'est pour ça, justement, la campagne va servir à ça, à ce que je puisse finir les travaux et d'aménager et les stocks. Dans ma maison, un endroit qui est dédié à la fabrication des cosmétiques, parce que c'est la norme, quoi. On ne peut pas faire ça dans la cuisine. Tout le labo, et puis une petite partie bureau où j'exposerai les produits, comme ça, si les personnes veulent venir voir le produit, va se rendre compte, quoi, sans de suite acheter sur Internet, c'est possible.
D'accord, donc il y aura une sorte de mini-boutique, voilà, de présentation.
Un avant-labo.
Et du coup, on va parler de vos produits, des matières premières, des huiles. Où est-ce que tu les achètes, ces matières premières? Avec qui tu es en relation pour tes produits?
Donc, du coup, la majorité viennent du Gard et de la Lozère. Donc, il y a de l'huile de tournesol que j'utilise pour faire des macérats de plantes, dans lequel je fais macérer de la sauge et du thym. L'huile de tournesol, elle vient du Gard. La cire d'abeille, c'est ce qui donne cette texture baume, du coup, qui solidifie l'huile, vient du Gard aussi. Les plantes, donc ce qui est sauge et thym, qui sont soit dans l'huile du coup, soit en poudre, et la menthe aussi qui est en poudre, je les trouve soit dans le Gard, j'ai un producteur dans le Gard et j'ai un producteur, une productrice du coup, juste à Saint-Alban, sur Limagnole. Donc voilà, toujours plusieurs producteurs parce que c'est bien d'avoir des plants B, C et D, vu que c'est des petits aussi et que maintenant les conditions climatiques, des fois leur production elle n'est pas sûre. Du coup voilà, toujours avoir plusieurs plants. Et la vitamine E par contre vient d'Allemagne parce que c'est l'ingrédient obligatoire qui n'est pas très... Si on pouvait s'en passer, ce serait bien. Et l'oxyde de zinc aussi, donc, qui se trouve dans le déodorant, c'est pour justement empêcher les odeurs de transpiration, donc c'est essentiel aussi, vient de Belgique, parce qu'on n'en a plus en France. On a tout usé pour reconstruire après la guerre.
D'accord.
Donc on n'en a plus. Et après, les argiles, les argiles de France, de Bretagne exactement. Mais les argiles, voilà, on en a partout en France, donc ça, pas un souci.
Eric ?
Les producteurs, c'est des producteurs qui sont dans des démarches bio
Du coup, la Pauline qui est à Saint-Alban, elle est bio. Sébastien qui est dans le Gard, il fait partie du syndicat des simples. Donc c'est même... Enfin voilà, c'est pas très connu, mais c'est même plus que bio. Enfin voilà, c'est vraiment de A à Z. Ils sont à fond. L'huile de végétal, pareil, elle est biologique. La culture, la transformation... la cire d'abeille, elle n'est pas parce que c'est une petite productrice qui n'a pas les moyens de se payer le bio, mais elle utilise les mêmes procédés en fait que ce qui est demandé en bio. Mais voilà, c'est vrai qu'avoir le label, c'est un budget. Et justement, quand on n'est pas très grand, c'est compliqué. Mais vitamine E bio. Et après, tout ce qui est argile, oxyde de zinc, ça ne peut pas être labellisé bio parce que ce n'est pas quelque chose de cultivé. C'est quelque chose qu'on extrait. Du coup, le bio, c'est pour tout ce qui est culture. Donc, tout ce qui est argile, c'est pas...
Pour les ingrédients, si on compare un dentifrice qu'on achète dans le supermarché avec une liste, on n'arrive même pas à comprendre un mot dessus. Là, du coup, il y a combien d'ingrédients pour le dentifrice, par exemple?
Le dentifrice, il y en a 6.
D'accord.
Il y en a 6. Pour le dentifrice en pâte, il y en a 6. Le dentifrice en poudre, il y en a 4. Et dans le déodorant, il y en a 7.
Okay.
Et après, moi, vraiment dans une démarche de transparence et de justement que les gens comprennent, parce que même moi, avant de commencer à m'y plonger, j'y comprenais rien aux listes, honnête. Sur les étiquettes, je mettrais la liste Inki, donc tout ce qui est latin et anglais qui est obligatoire, et je mettrais la traduction en français. Comme ça, au moins, tout est clair.
Tout est clair. Est-ce que tu peux nous faire, enfin, sans pas faire une démonstration, mais du moins nous ouvrir les boîtes et qu'on comprenne, parce qu'un déo en pâte, j'avoue, ça peut faire peur quand on n'est pas forcément habitué.
Ouais. Le déo en pâte, donc là, il fait froid, il est un peu plus dur que s'il était, c'est la cire, voilà. Et après, on prélève, en fait, et tout bêtement, on prend avec le doigt et on se tartine les selles, voilà. Et après, pour le dentifrice, pareil, on prend à la spatule et on se met sur la brosse à dents.
D'accord.
Et on se brosse les dents comme à son habitude. Et pour la poudre aussi, il faut utiliser une spatule du coup. Parce que pareil pour, pour tout ce qui est microbes et bactéries.
Okay.
Et après, on prend et on met la brosse à dents juste sur le pot et on secoue sur la brosse à dents. Et voilà. Après, on mouille ou on mouille pas. La poudre, moi, je trouve que c'est pas essentiel de mouiller la brosse à dents.
D'accord.
La pâte, on peut faire au choix, mais ça suffit à soi-même. La salive fait son boulot aussi.
Est-ce que c'est des produits que tu vends un petit peu?
Non, parce qu'il fallait attendre du coup que ce soit validé par le toxicologue et tout.
D'accord.
Ça. Et j'ai eu la confirmation il y a 3-4 semaines à peu près que c'était bon.
Okay.
Donc j'en ai profité pour lancer la campagne. Et donc il fallait attendre ça, et pour l'instant voilà, je les vends via la campagne, et après une fois que qu'elle sera finie, Ce sera parti. Voilà, parti. Le site est en préparation, ouais. Donc bientôt, okay. Bientôt disponible.
On va faire une petite pause musicale et avec une chanson que tu as choisie, que tu m'as donnée. C'est le groupe Woodkid et leur chanson Iron. On a profité de cette petite pause musicale pour sentir les produits, parce que c'est vrai qu'on n'en avait pas vraiment parlé de l'odeur. Ça sent, pour les dentifrices, assez fort le thym, mais ça sent bon. Hein, ça sent vraiment bon.
Le thym et la menthe. Après, ouais. c'est aussi un parti pris de travailler les plantes. Il faut aimer l'odeur des plantes. Quoi. C'est,
oui.
Voilà. Mais c'est quelque chose, on n'aime pas.
Après, le déodorant est beaucoup plus subtil. L'odeur est quand même un peu présente, mais c'est très, très léger.
Ouais, bah c'est le but. Voilà, j'avais eu pas mal de retours de gens qui se plaignaient des odeurs trop fortes de déodorant. Au final, ça ne sert plus à rien de se parfumer. Donc, j'ai voulu faire l'inverse.
Et est-ce que, du coup, tu fais des... Donc, tout est en pot en verre. Donc, vraiment, il y a une démarche de A à Z.
Ouais.
Les pots en verre, pourquoi, du coup? Et on peut te les ramener?
Alors, voilà, pots en verre, pour le côté réutilisable, même s'il doit être recyclé, il est vraiment bien recyclé que le plastique, voilà. Et puis c'est totalement inerte, le verre, ça ne transmet pas de particules et tout ça. Et vous pouvez, voilà, les clients, futurs clients, peuvent me les ramener, me les renvoyer. Alors je développerai un système un peu plus poussé, je pense plus tard, avec vraiment un système de consignes. Voilà, mais il faut encore que j'y réfléchisse. Mais voilà, c'est pas parce que ça n'existe qu'il n'y a pas de consigne qu'on peut pas me les renvoyer. Voilà, juste parce que la démarche vaut le coup de le faire. Et après, moi, je les lave, les désinfecte et je m'en resserre.
Est-ce que tu nous as parlé de la formation que tu dois faire pour pouvoir ensuite proposer ces produits à la vente. Mais est-ce que créer une entreprise en Lozère, est-ce que c'est compliqué ? Tu as des difficultés ou au contraire, tu es quand même très accompagnée ?
Ouais, bah créer une entreprise même pas en Lozère, je crois que c'est compliqué. C'est faut se former. Alors moi je suis avec la CMA, donc voilà qui m'aide via des formations et une conseillère et tout ça. Après je compte me mettre en micro, donc c'est simplifié on va dire. Mais voilà, ça va. Enfin, si j'ai des questions, voilà, je sais à qui les poser, que ce soit la CMA ou Lozère Développement aussi, que je suis en contact avec, qui m'aident beaucoup. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est la compta, mais bon, ça, ça se fait.
Ça s'apprend.
Voilà. Puis si un jour ça marche très bien, je m'achèterai un comptable.
Et du coup, là, en ce moment, ça tout roule. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tu es accompagnée tous les jours. Donc, dès que tu as des questions, en fait, tu peux interagir avec eux.
Ouais, bah alors après, pas. Enfin, oui, voilà, quand j'ai des questions, après, que ce soit sur l'entreprise ou sur les cosmétiques, d'ailleurs, tout ce qui est. Voilà, j'ai tous mes formateurs, quoi, qui, même si ça fait un moment, qui sont toujours là pour répondre aux questions. Et après, pour même la cosmétique ou les entreprises, sur les réseaux sociaux, des groupes qui sont vraiment, où il y a plein d'entraide et où il y a plein de gens qui ont déjà vécu ça et qui savent comment faire, ça aide beaucoup ça aussi.
Et du coup, les pots, tu vas les vendre combien à peu près, tu peux nous dire ?
Alors, le déodorant sera à 13 euros et les dentifrices à 12 euros avec la spatule. Et voilà. Après, il dure longtemps. J'ai des retours, autant pour le dentifrice que pour le déodorant que ça fait plus de 3-4 mois qu'ils l'ont et ils n'ont pas encore fini. Le dentifrice en poudre, 200 utilisations. Alors, je ne sais pas comment ils ont fait, mais ça fait au moins 6 mois.
Donc, voilà. Ok, donc du coup, ça coûte un peu plus cher, on va le dire, hein, qu'un dentifrice qu'on achète en supermarché, mais du coup, ça dure plus longtemps.
Oui, voilà, c'est ça. Ça dure plus longtemps et après, ça coûte plus cher, c'est sûr. Mais bon, après, c'est aussi le prix du... de producteurs français, de savoir-faire français et en petite quantité, de façon artisanale, voilà, c'est aussi...
Ça coûte cher, du coup, parce que tu achètes en grosse quantité aux entreprises avec qui tu travailles ?
J'essaie d'acheter en pas trop grosse quantité, parce qu'avoir trop de stock, après, c'est pareil, c'est pas très bien. Après il y a par exemple l'argile, on peut pas l'acheter en moins qu'en 25 kilos. Je prends 25 kilos. Après tout ce qui est plantes, huile, en plus ils sont pas loin les producteurs, donc je peux aller chercher au besoin, j'ai envie de dire. Donc là je fais en plus petite quantité, mais sinon stock moyen. Après c'est ça. Après ce qui est bien de travailler avec les petits producteurs pour ça, c'est qu'il y a pas des limites de taille et de poids énormes. Donc voilà.
Pour lancer du coup ton entreprise, faire un peu d'aménagement pour ton labo, tu as lancé
crowdfunding en anglais, campagne de financement.
Une campagne de financement participatif, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc dis-nous comment ça marche.
Alors comment ça marche, c'est beaucoup de préparation depuis des mois, et j'attendais du coup les retours, les validations des formules par le toxicologue pour pouvoir la lancer officiellement. Et donc là, ça fait 2 semaines qu'elle est lancée, et donc c'est beaucoup de messages, beaucoup de relances, de demandes de partage, de participation. On appelle les radios, les journaux, tout ça pour faire parler. Au maximum de la marque. Et c'est vrai que il y a tout ce qui est aspect financier qui est pas négligeable, parce que clairement j'en ai besoin. Mais après il y a tout l'aspect humain, parce que les gens recevoir les encouragements des gens, les messages de soutien, tout ça, ça fait vraiment ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir, et dans les moments de doute ça soutient. Et après tout ce qui est visibilité, parce que du coup c'est l'occasion aussi d'en faire parler de partout et de faire découvrir la marque, et c'est toujours un plus pour plus tard, quoi.
Eric ?
Donc comment ça fonctionne ? Il y a des contreparties, justement ?
C'est ça, ouais, ouais. Alors, on peut choisir soit contrepartie, soit don sans contrepartie. Après, il y en a qui font des prêts, tout ça aussi. Voilà, ça dépend ce qu'on choisit. Et du coup, là, ouais, sur ma campagne, donc ça avec contrepartie, c'est pour voilà, remercier un minimum les gens, leur offrir un produit qu'ils peuvent choisir. Ils peuvent faire des dons sans contrepartie s'ils ne veulent pas forcément voilà, de produits. Et donc, on peut recevoir les produits. Après, il y a un lot aussi où il y a les trois produits avec trousse de toilette et tuyau à brosse à dents qui est fait, pareil, qui est fait à la main à Montpellier. Et puis une contrepartie avec des ateliers cosmétiques, donc où on peut venir chez moi dans mon labo et vous fabriquez vous-même les produits bah, avec moi qui, voilà, qui vous guide. Et puis après le summum, c'est un week-end donc avec l'atelier cosmétique et en plus une nuit avec, avec les repas compris dans un gîte qui est au Malzieu. Donc en plus Malzieu qui a été labellisé il n'y a pas longtemps... plus beau village, donc ça fait un week-end très sympa.
Sympa, comme contrepartie.
Ouais, voilà.
Et du coup, sur ce par rapport à ce financement participatif, quand toi, tu as décidé de te mettre à ton compte en Lozère, est-ce que tu as regardé un peu ce qui se faisait déjà dans le cosmétique maison? On peut dire ça comme ça ? Est-ce que ça, c'est un marché qui se développe bien ?
Ça se développe bien. Bah, déjà, c'est essentiel de connaître ses concurrents ou ses collègues, soyons gentils, et voilà, de savoir ce qui se fait. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup... de plus en plus de marques qui fabriquent en France, qui font du made in France. Après, c'est vrai que voilà, en France, je crois qu'on est le pays qui a le plus de laboratoires de fabrication. Donc en soi, faire produire en France, c'est pas compliqué, on trouve. Mais voilà, ça se développe de plus en plus. Et beaucoup de savonniers, les savonneries, ça explose. Ouais. Voilà. Et après, je l'ai vu, parce que vraiment, moi, si je cherche dans ma niche, on va dire, des cosmétiques faits en France, mais avec des ingrédients français... C'est plus rare, parce que souvent, c'est fait en France, mais y a du beurre de karité, de l'huile de coco, ils cherchent pas forcément les petits producteurs. Ça commence aussi, y a pas mal de marques qui font beaucoup d'huile végétale. Parce qu'en France, on a beaucoup d'huile végétale qui sont fantastiques. Et voilà, beaucoup de gammes à base d'huile, avec des huiles françaises, ça se développe, ça commence, et c'est bien.
Okay.
C'est bien comme ça.
On va passer à la chronique d'Eric. Alors attention, je vais vous faire une petite chanson. Je pense que tout le monde va connaître, mais bon, on ne sait jamais.
J'ai deux amours, mon pays est Paris.
Le Panthéon, vous savez, c'est ce repère poussiéreux où l'on idolâtre les grands hommes. Enfin, les grands hommes blancs. Ces figures qui résument une certaine idée de la France. Alors, que ce soit pour l'histoire... La littérature, l'art, les sciences, nos références sont presque exclusivement masculines. Les femmes n'ont pas le droit d'être citées, ou souvent comme faire valoir. Pour le moment, elles ne sont que 5 femmes à avoir eu les honneurs d'entrer au Panthéon. Sophie, la femme de Marcelin Berthelot. Marie Curie, la femme de Pierre. Geneviève, la nièce du grand Charles de Gaulle. Germaine, fille de Lucien Tillon. Et Simone Veil, la femme d'Antoine. Et aujourd'hui, elles vont voir une de leurs camarades les rejoindre, puisque nous allons assister à la panthéonisation de Joséphine Baker, qui pourtant ne coche aucune des cases pour atteindre cet honneur. Une femme, immigrée, qui plus est noire, et qui était surtout connue pour ses chansons et ses danses endiablées, seulement vêtues de bananes et de plumes. Ce n'est pas sérieux, voyons. Bon, je ne sais pas si je crois au destin, mais j'ai bien l'impression que Joséphine, elle, croyait dans le sien. Ainsi, lorsque la plupart des personnes avaient l'impression de pouvoir commencer une nouvelle vie en arrivant devant la Statue de la Liberté, le rêve américain, tout ça, eh bien elle, c'est en lui tournant le dos justement à la Statue de la Liberté et en traversant l'Atlantique dans l'autre sens, vers la France, qu'elle a voulu croire en un avenir meilleur. La voilà donc débarquée en 1925 comme égérie de la Revue Nègre, une autre époque. Elle qui n'était qu'une fille noire américaine, un peu inculte, est entrée dans la vie parisienne en fanfare, avec une envie, un sourire, une voix, un corps, des chansons, à faire tourner les têtes des femmes et des hommes qui l'admiraient. La Seconde Guerre mondiale aurait pu l'enfermer dans l'oubli, mais elle est devenue une certaine image de la France, et a troqué ses habits de lumière par un uniforme bleu sombre, l'uniforme des forces françaises libres, où se reflétaient la Légion d'honneur, la Croix de guerre, la médaille de la France libre et celle de la Résistance. Rien que ça. Alors l'histoire était déjà très belle, et aurait pu s'arrêter là. Mais Joséphine Baker avait surtout un cœur, semble-t-il, bien placé, gros comme ça, et très généreux. Et elle ne savait pas rester en place. Après avoir acheté le château des Milandes en Dordogne, elle adopte 12 orphelins du monde entier, devenus sa tribu arc-en-ciel, pour créer sa propre tour de Babel et une utopie, vivre ensemble avec nos différences. C'est alors qu'elle aurait pu s'arrêter dans sa quête, mais elle avait encore d'autres combats, et plus particulièrement les droits civiques. Elle était une militante des plus actives et des plus écoutées. Ainsi, en 1963, à Washington, elle participe à la fameuse marche pour les droits civiques des Noirs, organisée par Martin Luther King. Et ce jour-là, aux côtés du pasteur, elle sera la seule femme à prendre la parole devant 250 000 manifestants. À l'échelle de Lauser, je vous laisse imaginer. Donc Joséphine Baker aura tenté, risqué, perdu aussi, ouvert des voies, suscité des vocations, aura toujours été vite comme dans ces bolides qu'elle adorait piloter. Et pour tout ça, elle aura été critiquée, contestée, haïe parfois, souvent même. Elle a été la cible des préjugés sociaux et raciaux, mais elle est restée une femme libre, aimante, courageuse, généreuse, lumineuse. Je ne sais toujours pas si je crois au destin, mais là quand même, ça en devient un sacré de destin. Que cette étonnante danseuse aux mille vies, qui dans la France d'aujourd'hui fait taire les identitaires, les indigénistes, les racistes et les tristes bourgeois. Son histoire, comme celle de nombreuses femmes, mérite tellement d'être racontée à nos enfants, à la jeunesse en manque de représentation, avec ses valeurs de progrès qu'elle incarne. Alors oui, Joséphine Baker, rentrez vite à cette place qui est la vôtre et dépoussiérez comme un tourbillon le Panthéon.
Merci Eric pour cette belle chronique sur Joséphine Baker. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en fait, évidemment, ce qu'on entendait en fond, c'était Joséphine Baker. Hein. C'était « J'ai deux amours ». Du coup, on va revenir à toi, Camille, sur le financement participatif. Ouais. Est-ce qu'il y a une date de fin qui est prévue,
ouais,
je suppose?
Ça s'arrête le 11 décembre. Donc on est quasiment à mi-chemin là à peu près. Okay. Voilà, on a fait 2 semaines, il reste 2 semaines.
Et du coup, tu en es à combien là de
pourcentage? Je suis à un peu moins de 30% du
montant
de l'objectif, ouais. Final. Donc il faut encore
participer.
Faut y aller, voilà.
Si en plus on peut gagner, en tout cas si on peut avoir
des contreparties.
Ouais, des contreparties. Eric.
Et justement, comment on y va sur cette campagne de financement? Parce que je crois qu'on en a pas parlé.
Non, pas encore.
C'est sur quel site?
C'est sur Bluebees. Donc c'est une plateforme qui est pas forcément très connue, mais c'est 3 femmes qui ont monté ça il y a quelques années. Et voilà, elles sélectionnent vraiment que des projets. Écologique, d'agroécologie, qui ont vraiment un avenir et un impact positif. Et du coup, sur Bluebees, donc les abeilles bleues, voilà. Et après, dans la case de recherche, on écrit Loupa et on me trouve.
Et justement, ce qu'elles accompagnent dans la campagne.
Ah oui, ouais. Pardon, ouais. Je vais pas. Oui, c'est bon, c'est fini. oui, elles accompagnent très très bien. Et c'est ça, moi, qui me faisait peur de passer par d'autres plateformes. C'était vraiment parce que j'avais eu des retours. C'est vraiment, voilà, on est seul, faut se débrouiller. Que là, voilà, vraiment, par mail, elles répondent. Si on veut les appeler, elles nous répondent. elles nous envoient des documents pour nous guider, pour savoir comment parler, comment faire les photos, Donc vraiment, non, c'est. Pour ça, c'est vraiment un accompagnement génial.
Qu'est-ce qui te manque, là, du coup, quand tu auras fini le financement participatif pour ton labo? Et quels sont les matériaux, je vais y arriver, qui te manquent pour finaliser tout ça?
Alors là, ça va être parce qu'on a fait les travaux, du coup, parce qu'il fallait mettre un lino, repeindre en peinture lessivable et tout ça. Donc ça, on a fait. Et après, c'est acheter tout ce qui est meubles inox. Parce qu'il faut... c'est un peu comme une grande cuisine. Enfin, comme les cuisines des restaurants, des boulangeries. C'est un peu dans le même délire. Donc la table inox, des étagères en inox aussi pour stocker matières premières, contenants, l'évier, un vestiaire pour mettre les habits de travail, les habits de ville... et voilà, après tout ce qui est casserole inox, des entonnoirs, des spatules, des fouets.
comme une vraie cuisine.
C'est vraiment quand je me sers, pour acheter, on achète chez des fournisseurs de restaurants, de boulangeries, c'est pareil.
Okay. Et tu feras tout toute seule ou est-ce que tu seras aidée?
Non, toute seule.
Toute seule.
Voilà.
Ok.
Peut-être un jour un comptable, mais toute seule. Ok.
Et du coup, dans les prochains projets, je suppose que tu voudrais peut-être élargir ta gamme.
Bien sûr, j'ai tellement d'idées. Donc, les prochains produits que je vais sortir, c'est des huiles végétales, un mélange d'huiles végétales qui sont pour le corps, le visage, les cheveux. Voilà, ça fait tout, au moins, voilà, le minimalisme, quoi. Et il y a un démaquillant en nettoyant aussi pour le visage, voilà, histoire que ça aille avec les huiles. Et après, voilà, j'aimerais beaucoup sortir une crème solaire. Made in Lozère.
C'est pas comment ça?
Non, ouais, ben c'est ça, c'est rare, déjà, c'est rare des crèmes solaires qui voilà détruisent pas les océans.
Ouais.
Du coup voilà, mais c'est vrai qu'après niveau test en labo, c'est beaucoup plus lourd niveau financier, bon niveau temps, ben ça après voilà, mais niveau financier, c'est beaucoup plus lourd, donc j'attendrai peut-être un peu voir déjà comment ça se développe. Avec ça, et puis et mettre de côté, voilà, d'accord, que l'entreprise puisse payer.
Tu as déjà des précommandes, du coup, un petit peu, ou non?
Oui, bah, y a les commandes, du coup, via la campagne, et après, il y a pas mal de gens, voilà, qui sont intéressés, voilà, qui me demandent s'ils peuvent recevoir avant Noël, et tout ça. Alors voilà, je dis, oui, si vous voulez, hein, produit, hein, ça va. Ça. je produirai plus gros, et puis je pourrai les envoyer, quoi. Et après, il y a pas mal de petites boutiques, que ce soit à Aumont-Aubrac, à Saint-Chély ou à Mende, voilà, qui m'ont déjà contacté bah, pour pouvoir vendre les produits. Donc, c'est motivant, quoi.
Voilà. Et du coup, pour l'instant, tu peux nous donner où on trouve tes produits? Donc, c'est bon, sur la plateforme, est-ce que tu as un site internet?
Pour l'instant, non.
D'accord.
Il est en développement et je pense que, enfin, voilà, j'aimerais le sortir pour en janvier, histoire que, voilà, une fois que voilà, les fêtes sont passées, ben, les gens, voilà, peuvent le trouver directement. Après, voilà, s'il y a des soucis techniques et qu'il ne peut pas sortir de suite, ben, on pourra toujours me contacter voilà, via les réseaux sociaux ou mon téléphone, mail ou quoi. Si on veut vraiment passer commande, il n'y a pas...
D'accord.
Je peux très bien faire comme ça aussi en attendant que ça sorte. Ça marche aussi.
On peut déjà trouver sur les réseaux sociaux
Si on me contacte.
Du coup, ouais, sur quel...
Ouais, il y a donc sur Facebook et sur Instagram, c'est Loupalis Cosmétique.
Okay.
Donc Loupalis et cosmétique sans S.
Et pourquoi pas les marchés plus tard? Enfin, je sais pas si c'est un projet.
Ouais, c'est un projet. Alors, à voir si je l'ai fait à l'année ou juste période estivale, voilà, quand il y a plus de monde. Mais j'aimerais beaucoup. Enfin, c'est sûr que je les ferai. Savoir si je, voilà, comment ça se goupille. Mais voilà, je ferai des marchés au moins la saison estivale et après les marchés de Noël ou quand il y a des événements dans la région.
Ok.
Occasion.
Super. Ben, en tout cas, merci.
Ben, merci
beaucoup
à vous.
D'être venu.
C'était très sympa.
C'est la fin de cette émission, du coup. Merci Camille d'être venue. Si vous voulez faire un cadeau écolo, ben, cette année, rendez-vous sur la page Facebook et Instagram de Camille. Vous pouvez retrouver l'émission Happy Hour en podcast sur 48FM et l'émission sera rediffusée jeudi à 19h. Merci aux chroniqueurs Mélissa, Eric. On se quitte évidemment avec Joséphine Baker encore une fois et son titre La Seine, on s'en lasse pas. Salut à tous.
La Seine est aventureuse, de Châtillon à Mairy, et son humeur voyageuse flâne à travers le pays. Elle se fait langoureuse de Juvisy à Choisy, pour aborder l'âme heureuse, l'amoureux qu'elle a choisi. Elle coule, 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 dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ses quais fleuris. Elle chante, 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 chante le jour et la nuit. Car la Seine est une amante et son amant, c'est Paris. The Seine, when she starts on her travels, lazily flows from her source. Slowly her length she unravels, twisting and turning her course. Deep in the country she tarries, not knowing which way to go, till the enchantment of Paris beckons her swiftly to flow. She goes flowing, flowing, flowing through the open countryside. For she's going, going, going to meet Paris like
dark a bride, and she's cooing, 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 like the murmuring doves. For the sun has gone a-wooing, and it's Paris that she loves. Elle chante, 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 chante l'amour de Paris, car la Seine est une amante de Paris.